Bonjour Fergan Aziari. Ça y est, c'est ouvert le micro. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez maintenant. Délégué général.
Boomer.
Ah bah oui. J'ai des réactions d'auditeurs. Enfin, c'est pas des réactions de retraités aujourd'hui.
Mais je confesse que j'ai un petit conflit d'intérêt quand on parle des boomers, puisque je suis encore loin de cette tranche d'âge.
J'ai remarqué que la plupart de ceux qui veulent faire payer les retraités, ils ont moins de 40 ans. Hein. Notamment dans
mais on a de vrais arguments.
Notamment dans ceux qui viennent dans cette émission.
J'en parlerai un peu, Nicolas.
Je suis retraité.
La grenade.
C'est un traité, en tout cas.
Je vais quand même vous présenter, parce qu'on vous entend, c'est même pas qui vous êtes, pour le moment. Vous avez vu comme la grenade se découpe vite. C'est merveilleux, j'adore. Donc, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, et vous avez publié Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée aux éditions Les Presses de la Cité. On peut vous lire dans Le Point. On peut vous écouter chez David Pujadas tous les 15 jours. Avec nous également Gilles Berset.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez publié « Travailleurs, mais pauvres, inégalité et lutte contre la pauvreté laborieuse » aux éditions De Buc. Et « Rapport du corps » qui va être publié là, bientôt.
La semaine prochaine.
Voilà.
La semaine prochaine.
Bon, on va apprendre des trucs.
Oui, il n'y a pas trop de surprises.
Rapport annuel. Mais ça fait partie des marqueurs qui sont incontournables. François Eckhall, bonjour.
Bonjour.
La commission Juvin vous a libéré, donc, pour venir ici.
Bien.
Fondateur de Fipeco.fr, professeur d'économie à Paris. Je ne suis pas allé voir les dernières actus de Fipeco, j'ai oublié ce matin.
Oh, la dernière, c'est une présentation du budget européen, c'est la semaine, mais c'est très descriptif. Comprendre le budget européen, parce qu'il y a le budget français, mais il faut aussi comprendre le budget européen, c'est pas si évident.
En fait, j'ai mis cette question aujourd'hui, c'est la réaction de Xavier Rago, qui était avec nous cette semaine, et qui considère que c'est hallucinant que les élus aient besoin qu'on vienne leur expliquer les budgets qu'ils sont censés voter. Voilà. Et je trouve que sa réaction est assez sensée. Enfin, vous me raconterez comment ça s'est passé. Est-ce que vous pensez qu'on a gagné la bagarre? Si je recommençais... Attendez, d'abord, je vous lis les mails des auditeurs. C'est Alain qui m'a écrit au sujet d'un des riches, l'Observatoire des inégalités, Fergan. Il lui considère que tout ça doit se mesurer avec l'indice de Gini. L'histoire des inégalités, bon.
Oui.
Et puis, réaction aussi de Pierre, qui dit « C'est pas possible de nous taxer plus, on est à l'os en termes de taxes, l'État doit revenir à ses fonctions régaliennes sans nous taxer plus. C'est une bonne idée de ne plus indexer les prestations sociales pendant un an ou deux. » Alors, il dit pas qu'il faut désindexer les pensions de retraite, mais...
Pas loin.
Je ne sais pas quel âge a Pierre. Qu'est-ce que je disais? L'inflation, c'est gagné? Parce que j'ai entendu Bruno Le Maire, j'avais dit 2% en mi-2024, on y est, youpi. Et là, moins 25 points de base, waouh, on se dit ça y est.
Bah écoutez, faut voir pour ce qu'il est le signal qui a été envoyé hier par la BCE et par le Conseil des gouverneurs. En mois de mai, l'inflation a augmenté par rapport au mois d'avril. C'est quand même quelque chose de remarquable, 2,6 au lieu de 2,4.
Oui.
La BCE a publié ses prévisions et a augmenté ses prévisions d'inflation.
Oui.
Et a augmenté ses prévisions de croissance. Et dans ce contexte, qui est quand même un contexte, je dirais, pas inquiétant, mais il y a un petit tilt qui se fait dans le cerveau de tous les banquiers centraux, dans ce contexte, il y a eu une baisse des taux, donc de 25 points de base, qui a été décidée
annoncé,
par le Conseil
Gilbert,
des gouverneurs.
Alors, tellement annoncé que si on ne l'avait pas fait,
annoncé,
la déception aurait été...
Mais, ça signifie quoi comme signal? Ça signifie, premièrement, quand même, que le Conseil des gouverneurs et la BCE sont convaincus qu'on est bien sur un processus structurel de désinflation.
Mmh.
Mais malgré tout, la révision des prévisions d'inflation et de croissance nécessite une certaine vigilance. Et la vigilance est liée à quoi? Elle est liée au fait que, dans les services, et les services, c'est quasiment uniquement du coût du travail, hein,
oui.
Dans les services, on voit que l'inflation augmente. On était à 3,7, on est à 4,1. Et il y a, je dirais, une petite inquiétude, une vigilance à avoir, en tout cas, du côté salarial, pour savoir si, effectivement, on ne quitterait pas, on aurait des difficultés à finir les derniers pas qui nous ramèneraient vers la cible d'inflation, vers les fameux 2%, du fait de salaires assez dynamiques.
C'est dans un contexte, salaires, Gilbert. Hein.
Dans un contexte...
On a été en salaire réel négatif pendant 2 ans, donc il y a un rattrapage.
Tout à fait.
C'est normal,
fait,
et c'est tiré par l'Allemagne, en
tout
plus,
fait,
qui
mais...
déforme la moyenne zone euro.
Alors, il faut se méfier de l'Allemagne, parce que les accords...
Ils sont à 6,1%
oui,
sur un an, eux.
Tout à fait, mais...
Au premier trimestre.
On parle beaucoup des accords en Allemagne, des 12%, par exemple, dans la fonction publique.
Oui,
alors, c'est des accords sur 2 ou 3 ans.
C'est vrai.
En l'occurrence, dans la fonction publique, c'est des accords sur 3 ans. Donc, 12% divisé par 3, avec en plus une visibilité, quand même, sur 3 ans. pas de surprise pendant 3 ans. C'est quand même ça aussi, l'Allemagne. Parce que chez nous, c'est annuel.
Et en fait, il y a des moteurs d'inflation dans ce que vous décrivez. Il y a encore des moteurs
d'inflation. Il y a des moteurs d'inflation et il y a une toute petite inquiétude, surtout dans un contexte d'absence de gains de productivité pour absorber, en quelque sorte, ces tensions salariales. Donc, c'est là où il y a une petite vigilance tout à fait logique de la part des banquiers centraux.
Bon, quelque chose à ajouter sur les banques centrales, Fergan,
moi, j'ai quand même une petite interrogation parce que on parle aujourd'hui de vaincre l'inflation alors qu'elle est encore au-dessus de 2% si ma mémoire est bonne. Je lisais il n'y a pas très longtemps un article de Jacques Delarosière dans Commentaire.
L'excellent Jacques Delarosière.
Tout à fait. Qui, lui, s'insurgeait de voir que quand on parle d'objectif d'inflation à 2%, selon lui, on a complètement dénaturé ce que voulait dire cet objectif. C'est-à-dire qu'il nous dit que l'objectif de 2% doit être considéré comme un plafond à ne pas dépasser.
Mais on a modifié la définition depuis.
Tout à fait.
C'est une espèce de pivot maintenant.
Exactement.
On a modifié à 3 ans.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est au-dessous des 2%, on dit qu'il faut absolument 2% d'inflation pour atteindre cette cible, alors que lui nous écrit que, à la base, quand on parle d'objectif de 2%, on parle d'un maximum à ne pas dépasser.
Oui, c'est juste.
Et moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est qu'on est encore au-dessus de 2%, et beaucoup de commentateurs nous disent qu'on a vaincu l'inflation, ce qui signifie en fait qu'on s'accommode d'un taux d'inflation bien supérieur à celui qu'on voulait au départ quand on a instauré l'euro. Et moi, je ne peux pas m'empêcher, si vous voulez, d'y voir une espèce d'anomalie, surtout quand on considère l'histoire de l'inflation sur le temps long. Il faut quand même se souvenir que lorsque l'Europe commence sa révolution industrielle, notamment au début du 19e siècle notamment, on a sur tout le 19e siècle aucune inflation, une inflation quasiment nulle. Tous les historiens s'accordent à dire que le 19e siècle est un âge de stabilité monétaire remarquable qu'on assimile à finalement l'âge d'or de l'étalon or classique. À ce moment-là, on a pas d'inflation, et je remarque que ça n'a pas empêché la révolution industrielle de se déployer. Quand on nous répète aujourd'hui qu'il faut absolument un peu d'inflation pour stimuler le progrès économique, il faut quand même se souvenir que l'Europe a amorcé son industrialisation dans un contexte où l'inflation n'existait pas. La rupture vient avec le XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale, on abandonne l'étalon or, on finance les guerres avec la planche à billets, et on se retrouve avec la fin de l'étalon or au XXe siècle, avec des taux d'inflation inédits. Et au XXIe siècle, on s'accommode des taux d'inflation de 2% par an en nous disant que c'est parfaitement normal et sain. Alors qu'en l'espace d'une génération, 2% d'inflation par an, enfin ça quand même, ça lamine votre épargne de plus de 30% en l'espace d'une génération. Donc dire qu'on a vaincu l'inflation alors qu'on est au-dessus de 2%, ça montre quand même qu'on a complètement intériorisé la normalité du phénomène inflationniste, quand à l'échelle de l'histoire de l'économie, à l'échelle de l'histoire moderne de l'économie, ça reste quand même des taux qui sont exceptionnellement élevés et des taux auxquels, je crois, nous ne devrions pas nous accommoder.
J'ai entendu le message. D'ailleurs, l'un des débats qui va probablement monter, c'est de savoir si la BCE doit modifier sa cible d'inflation et probablement la rehausser. Vous voulez réagir, Gilles Berset?
Oui, deux choses. Quand on dit qu'on a vaincu l'inflation...
D'ailleurs, on ne dit pas qu'on a vaincu l'inflation, je pose la question.
Faut rappeler quand même qu'en octobre, en octobre 2022, on a touché les 10,6% d'inflation dans la zone euro. 10,6%. Vous voyez, l'inquiétude qu'il y avait, c'est ce qu'on a connu dans les années 70. C'est qu'à partir du moment où un choc d'offres externes nous arrive sur la tête, on n'arrive plus à sortir, en quelque sorte, d'une situation inflationniste très forte. Là, en l'espace de 3 ans, on est parvenu à revenir à proximité de la cible, à 2,6% pour le mois de mai, après 2,4%.
Fergan a raison de rappeler que c'est que ça lamine l'épargne à terme.
Alors, il y a des raisons pour lesquelles l'inflation, maintenant, on en a plus besoin qu'au 19e siècle. Les rigidités nominales ne sont plus les mêmes.
C'est quoi une rigidité nominale?
La rigidité nominale, ça veut dire que au 19e siècle, les salaires pouvaient baisser.
Oui, c'est vrai.
Les salaires pouvaient baisser du jour au lendemain.
Ah oui, rigidité nominale, ça y est.
Non. De nos jours, il y a heureusement, des protections qui empêchent, évidemment,
le SMIC
des
remises en cause.
Le SMIC, non. Mais il y a aussi
de
façon contractuelle, une entreprise, sauf dans des cas particuliers, d'ailleurs, qui ont été prévus en France, les APC, on ne peut pas baisser les salaires d'une personne. Heureusement, donc, il y a des protections qui sont là, qui renforcent, en France comme ailleurs, les rigidités nominales. Pour cette raison, on a besoin d'un petit peu d'inflation. Et la règle qui a été décidée par la BCE il y a 3 ans, maintenant, maintenant de symétriser en quelque sorte la,
tourner autour,
la cible d'inflation.
En moyenne autour de 2.
Ça fait que la France se rapproche de ce qui existe aux États-Unis, de ce qui existe au Royaume-Uni, de ce qui existe dans les autres pays. Dans l'ensemble des pays avancés, la cible d'inflation est à 2% et elle est symétrique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et cette, la non-symétrie précédente aboutissait à un problème de lisibilité incroyable. Hein, les gens ne comprenaient pas. Il faut être en dessous, mais proche d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut être en dessous, mais proche d'eux? Vous voyez, c'est quelque chose d'incompréhensible. Et pour finir, hein, on a vécu 10 ans où le problème qui était sur la table,
c'était la déflation.
C'était le manque d'inflation.
Ah oui,
et là, il y avait beaucoup de gens qui préconisaient une révision de la cible à la baisse.
Oui, oui.
Mais là, je cite Jean-Marc Daniel. J'aime bien citer Jean Manet qui dit on n'a jamais vu des gens manifester contre la baisse des prix.
Manifester pour l'inflation.
Voilà. Oui. Alors, c'est vrai d'accord. que la question des rigidités, elle est, vous avez raison, elle est essentielle. Mais ces rigidités relèvent d'une construction politique. Nous avons fait le choix d'anéantir la liberté contractuelle sur le marché du travail, du logement, en supprimant les possibilités d'ajustement sectoriel en fonction de la conjoncture. Bon, ça a aussi un coût et un prix, et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose que d'avoir anéanti cette liberté contractuelle.
On ne l'a pas anéanti.
On ne peut plus ajuster les salaires à la baisse.
On a renforcé le droit du contrat dans ce domaine-là.
Voilà. Je pense qu'effectivement, si on fait un sondage, pensez-vous qu'il faut ajuster les salaires à la baisse pour revenir à une inflation zéro? Je ne sais pas quelle sera la réponse.
Oui, non, mais si les salaires réels sont maintenus parce qu'il y a une baisse des prix des biens et des marchandises. C'est-à-dire que si on a une baisse des salaires, c'est pas un problème en soi.
Oui. Il faut plus parler en termes de pouvoir d'achat.
Donc sur le long terme, on a choisi quand même de vivre dans un régime monétaire qui pénalise l'épargne, et ça c'est quand même un souci, et c'est quelque chose qui est inédit dans l'histoire moderne de l'économie. Et moi je m'étonne qu'on s'accommode d'une telle situation qui, il y a 2 siècles en tout cas, aurait été jugée assez sévèrement.
Comment vous réagissez à ce que disait Xavier Rago, François Eckhall? Sa première réaction quand on a parlé de la dette, de tous ces sujets budgétaires, là on était... Il est venu après.
Après moi.
Il était là quand, Xavier? Il était là lundi, voilà, lundi. Donc on a évidemment réagi à la décision S&P, tutti quanti. Et lui, il trouve hallucinant qu'on fasse une commission de la dette. Et qu'on ait des élus qui se mettent ensemble pour essayer de comprendre comment ça marche, pourquoi on en est là, c'est quoi un budget, alors que c'est leur boulot, c'est de le voter et de savoir de quoi ils parlent.
C'est pas nouveau d'ailleurs qu'il y a des commissions de la dette. Il y en a
depuis
20 ou 30 ans, des rapports sur la dette et des commissions
de la
dette.
Mais moi, j'ai été sensible à sa réaction. J'ai trouvé que c'était. Qu'effectivement, c'est une forme d'aveu d'incompétence.
Ouais, mais bon, moi, je suis moins sévère. Hein. Je pense que je suis bien placé pour savoir. Le sujet est quand même très compliqué. Très, très, très compliqué.
Vous dites le sujet est compliqué. Quel sujet est très compliqué?
Tous les sujets liés aux finances publiques. Il faut bien voir, par exemple, tout simplement que là, on parle de dette publique, de déficit public, c'est de la comptabilité nationale, ça concerne l'ensemble des administrations publiques. Oui. C'est pas ce que votent les députés. Eux, ils votent d'un côté une loi de finances concernant le budget d'État dans un autre système comptable, qui est la comptabilité budgétaire. À côté, ils votent une loi de financement de la sécurité sociale dans un autre système comptable, qui est celui des régimes de sécurité sociale. Et à chaque fois, il y a des particularités. La comptabilité nationale, bon, elle est harmonisée au niveau international, mais la comptabilité budgétaire française, c'est du franco-français, avec des trucs qui sont totalement incompréhensibles. Les prélèvements sur recettes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prélève sur des recettes? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est des crédits budgétaires. Enfin, il y a des trucs qui ont des appellations complètement absurde et ils ont du mal à comprendre ce qu'ils votent, effectivement. Puis après, quand on leur parle de comptabilité nationale, on leur explique le déficit public, la comptabilité nationale, c'est pas le même que le déficit budgétaire. Et puis c'est pas je pense quand même que dans les commissions des finances, il y a les députés et les sénateurs le savent, la plupart, ils sont là souvent quand même depuis longtemps, donc il y en a qui maîtrisent très bien tout ça. Après, au-delà des commissions des finances, c'est vrai que beaucoup de parlementaires ne maîtrisent pas tous ces sujets, mais quelque part je les comprends quand même. Moi j'essaye de leur expliquer.
J'accepte.
Mais je comprends qu'ils aient du mal à comprendre.
J'aime ce souci de détail, mais très objectivement, cette commission Juvin de la dette, elle vous entend pour comprendre les arcanes que vous décrivez ou pas? C'est ça, les questions portent là-dessus?
Non.
Les questions, c'est pas ça la question qu'on va vous poser.
La question, ça allait être totalement différente.
C'est quoi?
La question de la Commission, ou celle à laquelle j'ai commencé à répondre, c'est voilà, la dette publique a augmenté de 911 milliards d'euros entre la fin 2016 et la fin 2023. Macron, qu'est-ce qui explique ça?
Voilà, c'est voilà. Pas les...
c'est un autre sujet qui est un peu plus économique. C'est pas voilà, et donc je raconte ce que j'ai répondu.
Mais bien sûr, vous allez raconter ce que vous avez répondu.
J'ai commencé par jurer en levant la main droite que je dirais la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Hein. C'est une commission d'enquête. Donc c'est tu.
Non, mais vous êtes.
Tu me voilà, prépare-toi. À jurer. Mais...
non, parce qu'il va. Gilbert va être entendu. Mais oui, vous êtes redevable devant les tribunaux aussi. On prouve que vous êtes
redevable devant les tribunaux si je mens devant une commission d'enquête. Donc ce que je leur ai expliqué.
Je vous ai pas demandé de lever la main droite, moi.
Voilà.
Donc vous avez le droit de mentir là ici.
Et donc je leur ai expliqué les 911 milliards d'euros de dette. Vous pouvez expliquer comme ça. D'abord, quand Macron a été élu en 2017, le déficit public, il n'était pas à zéro. Il était à 3,8% du PIB. Et si on n'avait rien fait, et si le déficit public était resté à 3,8 points de PIB pendant toute cette période, la dette aurait de toute façon augmenté de 660 milliards d'euros. Ça, c'est le poids de l'histoire. C'est le poids de 50 ans de politique économique et de déficit public en France. Bon.
Donc la déformation mécanique de la dette sans rien faire aurait été...
En euros, de toute façon, voilà. Le point de départ était tel que... Voilà.
Après,
économiquement, c'est pas le déficit public de 2016, il faut prendre un déficit structurel, etc. Donc, je leur ai dit, on peut faire des tas d'hypothèses, c'est au moins la moitié des 911 milliards qui s'explique par l'héritage de l'histoire. Bon. Après, évidemment, la chute du PIB en 2020 explique un certain nombre de choses, mais c'est assez largement compensé par le fait que les années 2017 à 2019, en fait, ont été très bonnes, oui, en termes de croissance. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu un rebond de l'activité, les recettes ont augmenté un peu plus vite, spontanément, que l'activité. Et donc, au total, je veux dire, la conjoncture, je dirais, dans les années 2017-2023, la conjoncture explique moins de 10% des 911 milliards. Et donc le reste, c'est-à-dire un tiers à peu près.
Ça veut dire que quand on dit toujours Covid, Ukraine, il ne faut pas exagérer.
Le strict impact du Covid de l'Ukraine sur le PIB et sur les recettes fiscales, c'est moins de 10% parce que c'est compensé par des très bonnes recettes qui ont eu dans les années, les trois années précédentes, par exemple. Voilà, donc c'est moins de 10%. Après, le reste, en effet, c'est un tiers, c'est tout ce qui a été fait dans les années 2017-2023 pour augmenter ou baisser les dépenses publiques et les recettes publiques. Voilà, donc là-dedans, c'est un grand fourre-tout dans lequel il y a tout ce qui a été fait pour le Covid, il y a les baisses d'impôts, mais il y a aussi eu des économies. On oublie, mais en 2017-2018, les dépenses publiques ont très très peu augmenté. À cette époque, on avait commencé par faire des économies. Donc tout ça, ça représente à peu près, disons, un tiers. Voilà. Donc
quand on fait des économies, comme on a besoin d'argent, on va l'emprunter.
Oui.
Voilà, non, mais c'est juste pour terminer les. Et donc voilà, vous avez rebouclé.
Donc ce que je dis, mon message, c'est le legs de l'histoire, c'est quand même l'essentiel dans cette histoire. Donc c'est pas la dette publique, il faut pas incriminer le gouvernement actuel, etc. C'est tous les gouvernements français depuis 50 ans. Voilà. Donc c'est pas voilà. Après, ce que je dis aussi, c'est que quand on fait des comparaisons quand même dans le temps et dans l'espace, plutôt que de raisonner en euros, il faut mieux raisonner en points de PIB, parce que un euro aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'un euro. Il y a 20 ans, et un euro à Malte ou à Chypre. Donc, si on raisonne en points de PIB, la dette a augmenté sur cette période de 12 points de PIB, fin 2016 à fin 2023. 12 points de PIB, on a fait, je dirais, pire à certaines périodes précédentes, notamment quand il y a eu des récessions. On a fait pire dans la période 92-97, c'est une récession 93, c'était la droite à l'époque, au gouvernement, j'ai dit ça pour Juvin, et on a fait pire sous la période Sarkozy.
En point de PIB.
En point de PIB. Donc voilà, après, pour faire plaisir à Juvin, je lui ai dit, oui, mais si en comparaison internationale, sur la période 2016-2023, il est vrai que les 12 points de PIB de hausse de la dette publique française, c'est le plus mauvais résultat des pays de la zone euro. On est le pays où ça a le plus augmenté. Donc ça lui a fait plaisir.
Il y a un cas franco-français. Bon, j'adore la démonstration. Non, c'est juste un pur bonheur de vous écouter. Et je vous fais réagir, bien sûr, à ce que nous a raconté François Eccal dans un instant. On marque une pause. Puis vous me direz si vous partagez quand même cette espèce de cri du cœur de Xavier Rago que j'ai trouvé assez sensé, quand même. Ça a fait pas mal réagir, hein, les auditeurs. Je regarde d'ailleurs vos réactions. On se retrouve dans un instant.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.